Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Il y a deux semaines, après avoir fini d'enregistrer le premier épisode consacré à votre construction politique via votre parcours familial, on s'est retrouvés autour de quelques verres. Très vite, on a fait quelque chose qu'au final on fera assez peu dans ce podcast. On a parlé politique. À ma grande surprise, c'était parfaitement audible, intense mais audible. Je n'aurais pas cru que sur des sujets comme les violences policières, la montée exponentielle de l'extrême droite, l'intersectionnalité des luttes ou l'égalité femmes-hommes, quatre jeunes que beaucoup de choses opposent politiquement puissent s'écouter. À défaut de s'entendre, sans doute. Et il y a eu ce moment que, personnellement, j'ai trouvé assez lunaire. Vous vous êtes rendu compte que, pour la première fois, chacun des militants que vous êtes, vous échangez politiquement, sans animosité, avec des encartés de l'autre bord. Que ces échanges ne seraient sans doute pas possibles s'ils étaient publics. L'un d'entre vous a même dit qu'en temps normal, vos moments de rencontre, c'était plutôt pour vous fracasser en session nocturne de collage d'affiches. Un autre moment a vraiment marqué Ronan, le rédacteur en chef de So Good Radio, qui observait discrètement la discussion. Calixte, en regardant dans son tel, t'a dit « Ah merde, ils sont où mes EDL ?» Pour le commun des mortels, le sigle EDL, ça veut rien dire. Peut-être le nom d'un câble genre HDMI, ou alors le nom d'une filiale d'EDF. À une lettre près, sait-on jamais. Mais pour vous, c'était parfaitement logique. Les EDL, ce sont les fameux éléments de langage. Ces deux moments m'ont rappelé qu'on n'était pas en train d'avoir une discussion politique normale, mais que derrière vous, se cachaient des organes de structuration politique et des machines de com, et que vous portiez tout ça, autant que tout cela vous porte. Pour essayer de comprendre ce que vous êtes allé foutre dans le bourbier du militantisme partisan, on va aujourd'hui se concentrer sur vos premiers pas dans votre nouvelle famille, le royaume des EDL, la famille politique. Bienvenue dans Le Péril Jeune, saison 1, épisode 2.
Le Péril Jeune.
Le Péril Jeune.
Putain, mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes.
Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
Avec Guylain Gilliot, 22 ans, engagé auprès d'Emmanuel Macron.
Le péril jeune.
Je rappelle, le départ pour la manif est à 14h, hein?
Avec Anna Bikouloulou, 24 ans, engagée chez Europe Écologie des Verts.
Le péril jeune.
Et alors, ces demoiselles, là, qu'est-ce que je leur sers? Faudra peut-être penser à renouveler les consommations.
Un café avec 5 pailles, madame.
Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici.
Avec
Calix Trébel, 18 ans, engagée chez Les Républicains.
Le péril jeune.
Nous, on va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes.
Avec
Maya Chensoy, 21 ans, militante auprès de Jean-Luc Mélenchon.
Le Péril Jeune, présenté par Manel et Dawidi.
Bon, comment ça va l'équipe aujourd'hui? Tout va bien?
Ça va, hein.
Ça va, on est
à ces quelques jours du premier tour.
Je suis fatigué.
Je pense que c'est ce qui résume la situation. Ouais.
Première question assez rapide pour qu'on sache où on met les pieds. Chacun de vous, vous faites quoi et vous le faites où? Précisément, qu'est-ce que vous faites au sein de vos partis et surtout, comment on est censé appeler vos partis? Est-ce que c'est des mouvements, des organes connexes? Calixte, explique-nous.
Alors, dans mon cas, moi, je suis donc délégué jeune des Républicains dans le 16e, c'est-à-dire que je m'occupe d'organiser le militantisme pour les jeunes dans mon arrondissement. En fait, les Jeunes Républicains, c'est un mouvement indépendant financièrement avec son propre bureau national politique qui est élu tous les deux ans et demi. Et qui est rattaché au Parti Global. On est en fait l'organe principal militant pour les Républicains et on a pour rôle d'essayer de former la jeunesse, de la faire rejoindre notre parti, de montrer nos actions et de montrer que les jeunes peuvent aussi s'engager à droite.
Ok.
Et du coup, pour ma part, je suis co-animatrice du 5e arrondissement de Paris. Donc on s'organise par arrondissement sur Paris. On est en binôme paritaire, on n'est pas tout seul. Ce que je fais, c'est que j'organise des actions, etc. Je gère un peu les militants, le relationnel. Et à côté de ça, je suis aussi stagiaire au siège de l'AFI pour la campagne. Je bosse sur les relations avec la presse, notamment en meeting, etc.
Ok. Anna, toi, tu fais quoi ?
Alors, donc moi, je suis co-coordinatrice des Jeunes Écolos Île-de-France. En fait, les Jeunes Écolos, c'est une fédération qui a des jeunes écolos partout en France et un bureau national. Et au niveau local, donc, on a des groupes et qui ont du coup un binôme de co-coordinateurs, co-coordinatrices. Bon, nous, on a un peu triché, on n'est pas un binôme paritaire, là, on est deux femmes.
Mais... Bravo, la gauche.
On ne va pas se plaindre.
Normalement, c'est la règle, vous êtes tous en binôme paritaire, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On coordonne en fait les actions des jeunes écolos. Du coup, en Île-de-France, on fait des événements. On se mobilise aussi beaucoup pour aller en manif, parce que c'est quand même okay. important d'aller en manif. Et à l'occasion, on est là, on signe des tribunes, on fait des choses comme ça. En fait, on a séparé la partie campagne et la partie vraiment plus, on va dire, gestion quotidienne des jeunes écolos.
Ok, donc c'est un mouvement ou un parti ?
Du coup, nous, on a une clause d'indépendance solidaire avec ELV, c'est-à-dire qu'on est une association de jeunes. Il y a plein de gens chez nous, d'ailleurs, qui ne sont pas chez ELV. Mais si on doit soutenir un parti, ça ne peut être que ELV. Donc, de fait, on a des liens assez proches. Mais on n'est pas non plus directement leur organe de jeunesse. Genre, on n'est pas formé à devenir les futurs cadres de ELV, quoi.
Ok.
C'est mon tour, du coup.
Alors, est-ce que tu es formé à devenir le futur cadre
Je ne sais pas, mais espérons, peut-être un jour, en tout cas. Non, moi, je suis ce qu'on appelle référent à Paris. Et donc, je m'occupe du centre de Paris, donc 1, 2, 3, 4, et du nord-est, donc 10, 11, 12, 19 et 20e arrondissement. Mon rôle est finalement similaire à mes trois collègues, c'est-à-dire que j'accueille à la fois les nouveaux adhérents, j'organise la mobilisation. Là, en ce moment, on organise aussi beaucoup de réunions publiques et puis on fait des actions en lien avec du coup La République en Marche et donc les Jeunes avec Macron, c'est un mouvement qui est à la fois indépendant mais indépendant jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire qu'on est dépendant financièrement de La République en Marche.
D'accord.
Et donc chaque année notre trésorier va batailler auprès du trésorier de La République en Marche et du délégué général de La République en Marche pour avoir un budget qui soit on espère à chaque fois en progression et puis que nous, mais après, sur ce budget-là qui a été voté, on a notre totale indépendance sur ce qu'on peut en faire.
Ok, tu es en stage aussi
Oui, c'est ça. Oui, pardon, je suis en stage avec le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean. Et donc, en fait, je m'occupe notamment de gérer ses déplacements. J'organise l'ensemble de ses déplacements et je me déplace avec lui. Donc, c'est pour ça que je suis très peu sur Paris en ce moment et que je dors très peu également.
La vida loca.
Voilà, exactement.
Ok.
Le péril jeune.
Après ce petit échauffement, on va entamer la première des trois parties de notre épisode. Je vais vous demander de vous plonger dans vos souvenirs. Donnez-moi du pathos, Comédia dell'arte, Acteur Studio. Je veux que vous m'expliquiez vraiment de la manière la plus précise vos tout premiers pas dans la nouvelle famille politique. Guylain, t'en avais déjà un peu parlé à l'épisode précédent, où tu nous racontais ta première réunion politique. Du coup, c'était à Lyon, où tu t'étais trompé de
réunion. Oui, je me suis vraiment demandé ce que je foutais là, vraiment, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à Emmanuel Macron, je me suis dit, je vais rejoindre un comité, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que les premiers pas, c'est dans un comité La République en Marche. Je connaissais pas les Jeunes avec Macron, et en fait, je me suis retrouvé dans cette réunion avec que des vieux, mais alors vraiment, enfin, je me demandais ce que je faisais là. J'ai vraiment cru que j'étais rentré dans une maison de retraite, hein, vraiment sans être méchant. Et du coup, la réunion s'est faite et à la fin, j'aurais fini par leur demander, mais enfin, il y a des jeunes chez vous aussi, parce que enfin, le président c'était quand même quelqu'un de jeune à la base. Et en fait, il y avait que des vieux, donc je me posais des questions. Et après, on m'a dit, mais si il y a les Jeunes avec Macron, il faut que tu ailles voir, etc. Donc du coup, en fait, c'est là qu'on m'a mis en relation avec le responsable des Jeunes avec Macron du Rhône. Et puis j'ai été intégré de manière, de manière très rapide. Et puis après, en fait, je me suis engagé principalement avec les JAM et non plus avec La République en Marche.
Moi, c'est sur ce truc d'intégration que je veux que tu nous expliques. Concrètement, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a un entretien? Tu arrives dans une salle, il y a quelqu'un en face de toi?
Non, c'est pour le coup, c'est assez ouvert, mm-hmm. Dans le sens où finalement, on ne regarde pas forcément qui vient. De toute façon, on va vite repérer si c'est quelqu'un qui, finalement, n'est pas en accord avec nos idées. Mais que ce soit à la fois chez La République en Marche ou chez les JAM, il y a pas vraiment de, on fait pas, on va pas screener le profil de la personne avant sur Facebook ou sur les réseaux pour savoir si elle a dit des choses bien ou pas bien sur nous. Donc le but, c'est qu'on puisse l'intégrer le plus possible. Et puis, en tout cas, ce qu'on fait chez les JAM, c'est qu'on essaie d'organiser toujours ce qu'on appelle des accueils des nouveaux, ce qu'on faisait beaucoup et qu'on fait moins maintenant avec la campagne, mais on organise une fois dans le mois un apéro collectif avec l'ensemble des nouveaux arrivants où on leur explique un petit peu comment fonctionne le mouvement. Et surtout, parce que c'est aussi ça qui rebute l'engagement chez les jeunes, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils doivent obligatoirement être d'accord avec tout ce qui est fait au sein du mouvement et tout ce qui est dit au sein du parti. Et en fait, non, c'est aussi le but de notre indépendance, c'est que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on fait et vous avez le droit de vous exprimer et de ne pas penser pareil que nous. Et ça, c'est vraiment un travail de pédagogie qu'on fait au tout départ pour finalement faire... tu vois, leur dire c'est bon, vous êtes bien. Et puis après, ce qu'on fait également, un petit truc assez drôle, c'est qu'on fait un jeu de rôle sur les tractages, sur les marchés, où finalement.
Startup Nation.
Non, voilà, c'est exactement ça. Les cadres, en fait, se mettent dans la peau d'un mec de droite ou d'un mec de gauche. Et en fait, on doit se défoncer l'un et l'autre pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on doit réagir sur les marchés et surtout leur montrer qu'il ne faut jamais s'énerver et toujours rester très gentil avec les gens.
Ça rapproche ça.
On va vous piquer l'idée. Vraiment.
Tu vois, on vous donne toujours des leçons de toute façon.
Toi, Anna, ça s'est passé comment tes premiers pas? Par quelle porte t'es rentrée? C'était il y a combien de temps?
Alors, c'était en septembre 2021, donc c'est assez récemment finalement. Et en fait, on est plutôt venu me chercher. En fait, moi j'étais.
Putain,
on m'a rien demandé au départ. Non, mais en fait, je suis plutôt engagée dans l'associatif. Ça fait 4 ans que je suis dans une asso féministe, tout ça. Et j'avais un ami qui était le co-coordinateur sortant qui voulait justement recruter de nouvelles personnes. Il s'avère qu'on avait discuté politique plusieurs fois, que je lui avais dit que j'étais prête à m'engager, que je sentais que c'était la bonne année pour le faire. Et du coup, il m'a dit « Ah bah ok, t'es chaude pour entrer dans le bureau ?» J'ai dit « Ok ». Et ça s'est fait comme ça. La première fois qu'on s'est vus, bah, il s'avère que la seule personne que je connaissais n'était pas là. Donc c'était un peu impressionnant. On s'était donné rendez-vous en plus au But Chaumont. Genre, on avait fait un apéro au But Chaumont. Donc autant vous dire qu'au But Chaumont, en été, il y a des groupes partout. J'ai pas su les retrouver. Je savais pas qui c'était. Enfin, c'était horrible.
Bon, généralement, ils ont des drapeaux verts tout le temps.
Pas on n'a même pas nos signes de distinction. Mais tout de même, si, c'est vrai que après, ça m'a d'ailleurs fait rire. On avait tous amené la même bouteille de cidre et les mêmes chips Tyrells.
Donc vraiment, on s'est dit, okay, c'est la DA des écolos.
C'est ça.
Les Tyrells. La bouteille de cidre, ok.
Et du coup, c'est un petit détail, mais en vrai, ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit, ah ok, clairement, on est pareil en fait. Donc voilà.
Et toi, Maya?
Moi, du coup, ma première action, c'était une collecte solidaire devant le cinéma La Clé, un cinéma associatif. Ouais, c'était super cool, il faisait super froid aussi, je me souviens. Pareil, il y avait un peu que des vieux. Et comme Anna, bah, j'avais un peu peur avant d'y aller parce que bah, je connaissais personne. J'avais juste eu la co-animatrice de l'époque au téléphone la veille, je crois. Mais bon, au final, on est ensemble dans l'action et tout, c'est cool. T'as des trucs à se dire, ça se passe bien. Ouais. Et puis après, on a enchaîné très vite avec les réunions par Zoom, etc. Parce que c'était sous le deuxième confinement. Voilà.
C'était quoi la DA chez vous? Il y avait des petits drapeaux, une bière.
Il y avait des petits. Ouais, je me souviens de ça. Il y avait des autocollants sur le mur, un peu des.
Des mecs pas rasés aussi.
Un peu avant... ouais.
Des clubs roulés.
Oui, les roulés, oui.
Les roulés, bien sûr.
Totalement. Non, c'était un peu avant Noël, je crois. Genre, enfin, non, c'était en novembre. Mais ils avaient fait une petite déco avec des guirlandes et tout pour que ce soit sympa et que les gens viennent donner des trucs.
Des petites merguez.
Ouais.
Toi, tu nous avais raconté la dernière fois un peu, Calixte, comment ça s'était passé, tes premiers pas dans le parti. Mais tu ne nous as pas dit, avec les jeunes, par contre, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez commencé.
Le vrai premier pas avec les jeunes, donc, en fait, après cette rencontre avec le maire dont j'ai parlé dans l'épisode 1,
exactement.
On m'a redirigé vers ce qu'on appelle le RDJ, le responsable départemental des jeunes de Paris,
d'accord.
Avec qui j'ai eu un rendez-vous, ce qui n'arrive normalement pas, ce qui était du coup super cool. Je suis arrivé à la mairie du 15e dans son bureau parce qu'il est élu là-bas. J'ai passé 2 heures d'entretien avec lui, c'était franchement super, c'est super bien passé. Et à la fin de l'entretien, il y a eu une question, je pense, pour me tester un peu, pour voir mes connaissances politiques, pour voir à quel point j'étais de droite. Il m'a demandé si je connaissais Bruno Retailleau et ce que je pensais de ce qu'il disait. Alors,
Valentin... J'espère que tu en penses du mal.
Valentin, si tu m'entends, et Monsieur Retailleau, si vous m'entendez, je suis désolé, j'ai menti ce jour-là.
Ok.
Lorsque on m'a demandé si je le connaissais, j'ai répondu qu'il n'était pas du tout assez médiatisé, ce qui était dommage vu son propos qui était tout à fait intéressant. Je ne savais absolument pas qui était Bruno Retailleau.
Quelle anguille.
Finalement, il ferait mieux de rester pas médiatisé du tout. C'est
non,
plutôt
non,
bien.
D'accord, je suis pas d'accord. Il apporte un vrai sujet dans notre parti et une vraie ligne idéologique. Mais à l'époque, effectivement, il était, ce qui est vrai, il n'est pas assez médiatisé, donc j'avais aucune idée de qui c'était. Donc je suis sorti cet entretien-là en me disant j'espère que c'est passé, j'espère qu'il a rien cramé. On a continué à parler un petit peu, c'était top. On m'a redirigé vers donc le responsable de mon arrondissement et j'ai fait ma première action. Je suis arrivé et pareil, c'était plus ambiance troisième âge qu'ambiance jeune militant à fond. Et ça a été à la fin de la campagne des régionales que j'ai fini par vraiment rencontrer tous les autres jeunes de Paris. Il y a eu un pot entre jeunes militants pour fêter notre victoire en Île-de-France. Et là, je me suis fait plein de potes, ça a commencé à fond comme ça. Et depuis, c'est vrai qu'il y a un vrai entourage qui s'est créé, une vraie motivation qui a pris comme ça.
Vous êtes combien, tous dans vos parties, jeunes, sur Paris? Parce que je ne me rends pas compte, en fait, on ne se croit jamais. Enfin, moi, je ne vois jamais d'autres jeunes sur les marchés que nous, en fait. Du coup, c'est hyper frustrant.
Alors, j'espère ne pas me tromper sur mon chiffre, mais il me semble qu'à Paris, nous, on est 1600.
Ouais.
Ouais.
C'est énorme.
Ouais.
En actif, parce qu'il y a des actifs et des non-actifs aussi.
Il y a des actifs et des non-actifs, mais on a un très bon taux d'actifs, pour le coup, chez les Républicains. Après, il faut bien comprendre qu'on a, nous, plusieurs cellules, en fait, qui fonctionnent. On a des cellules de terrain, on a des cellules qui vont plus faire du phoning, on a des cellules de mobilisation. Donc, en fait, ça dépend vraiment de l'engagement de chacun, de la capacité d'engagement de chacun. Mais ouais, on tourne autour des 1600 militants à Paris.
Et donc, vous tous, enfin, en tout cas la majorité d'entre vous, vous avez commencé et c'était plutôt des personnes assez âgées. Vous, ça vous a pas rebuté, mais est-ce que vous pensez que ça peut rebuter quand même un jeune qui cherche à s'engager, de savoir que tu passes par un petit moment où en fait tu trouves pas tes semblables et tu peines à rentrer dans le moule du troisième âge?
Ouais, mais c'est un vrai sujet. Mais...
Non, mais en vrai, il y a quand même... Je trouve de plus en plus, en tout cas, avec la campagne forcément qui s'active, parce que je pense que nous, tout ce qu'on a rejoint, c'était pas des grosses campagnes, ou alors c'était même pas des campagnes du tout. Mmh. Avec les campagnes qui s'activent, il y a de plus en plus de jeunes qui sont mobilisés, et du coup, l'échange se fait directement avec des jeunes. Dans mon cas, par exemple, le responsable des jeunes de Paris, il a 23 ans, si je me trompe pas, donc c'était quand même un jeune à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'il y a des nouveaux qui arrivent, c'est nous, les responsables jeunes, qui nous en occupons. On les intègre directement dans les boucles de militants jeunes. On va faire un maximum d'événements ensemble, des verres, des cafés politiques, des réunions publiques. On se retrouve entre nous, on va boire ensemble. Donc au final, maintenant, de plus en plus, en tout cas, on intègre directement les jeunes avec les jeunes.
Donc il y a quand même une certaine obligation morale et politique pour vous, en tant que responsable de structure jeune, d'accueillir les nouveaux. Si on vous envoie un message sur Insta, Twitter ou que sais-je, vous devez répondre et a priori quand même essayer d'intégrer les jeunes.
C'est notre rôle en fait. Ouais. C'est aussi ce pourquoi on a des responsabilités. On doit accueillir ces jeunes et on doit justement casser cette image parce que quand tu dis ça peut rebuter, oui ça peut rebuter, mais c'est parce qu'aussi il y a cette image qui s'est formée que finalement la politique c'était que des vieux et qu'en fait les jeunes n'avaient pas leur mot à dire ou leur place. Absolument. Et donc du coup il faut qu'on redonne aussi, enfin moi je sais que la première fois où j'ai vu que des vieux, je me suis dit c'est pas grave, je serai le seul jeune, mais ça permettra de dénoter un petit peu dans tout ça. Et puis si t'as vraiment envie, écoute, t'iras les bousculer un petit peu et puis on verra comment ça va se passer. Après ça passe ou ça casse, mais je pense qu'il faut rentrer un peu dans le tas et puis après on voit ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui souhaitent s'engager et qui sont pas forcément ils vont se dire j'y vais une fois et après j'y retourne plus quoi.
Maya, tu disais c'est un vrai sujet, effectivement, comment on intègre et comment vous avez été intégré? Toi tu parlais des sessions roleplay chez Jacques.
Ah ouais, c'est super bien, en vrai je vous invite quand vous voulez, hein, vraiment.
Est-ce qu'il y a d'autres manières d'intégrer? Est-ce que vous êtes fait bizuter? Ça passe par du team building, je sais pas. Expliquez-moi comment, en fait, avec ces gens que vous connaissez pas et avec qui vous êtes censé faire corps, vous réussissez à vous connaître et à échanger et à briser la glace?
Nous, écoute, vu qu'on est un parti, un mouvement de gauche, c'est plutôt en manif que ça se passe.
L'enfer, toujours, c'était sûr.
Donc, je sais qu'à l'époque, là, on le fait plus parce qu'il faut être un peu sérieux, mais à l'époque, les manifs...
Ah, donc tu confirmes que les manifestations ne sont pas sérieuses.
Ah si, c'est très sérieux comme sujet, mais bon, à l'époque, on prenait notre temps, donc on prenait des petites pintes pendant les manifs, etc. Okay. Et c'est là que tu papotais un petit peu, etc. Après, tu restais... boire des coups avec les camarades pour faire leur connaissance.
L'alcool,
après la manif.
Il y a que ça de mieux quand même. Hein.
Ouais, parfois, je pense que c'est assez universel.
Ça permet de resserrer les liens.
C'est un peu expliant.
Bah ouais. Ouais.
Ouais. Ok. Et chez vous, Anna ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la partie intégration vraiment dans le groupe local, où là, c'est vrai que ça passe aussi beaucoup par les manifs. C'est vrai que c'est du coup forcément des temps un peu conviviaux. On se rejoint avant, on reste ensemble après, etc. Même si c'est vrai que du coup, on a un peu moins de monde en manif en ce moment, parce que forcément, on met tellement d'énergie
ailleurs.
Que,
ouais.
Voilà. Mais ça passe beaucoup par ça. On fait aussi beaucoup de... Nous, on fait des formations. On essaie d'en faire deux fois par mois, de faire des formations sur genre tout ce qui est média training, faire des formations prise de parole en public, des choses comme ça qui sont du coup aussi des temps où on n'est qu'entre nous et où on apprend véritablement à être des militants, militantes, ce qui nous donne du coup aussi des billes pour ensuite affronter les vieux. Et il y a du coup toute la partie qui est vraiment plus intégration au sein de la fédération. Et là, les jeunes écolos, on organise 6 forums par an, où c'est vraiment des week-ends où la journée, on fait des formations, genre on voit il y a des personnalités politiques qui viennent nous voir et tout. C'est vraiment hyper bien, on est hyper studieux. Et où le soir, on boit des bières, justement. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, du coup, en plus, on rencontre des gens qui viennent de partout en France. Et du coup, c'est vraiment cool.
Donc, il y a quand même un apprentissage au militantisme. On s'improvise. En tout cas, c'est ce que vous prenez. On ne s'improvise pas militant. Vous faites en sorte de faire de la pédagogie, d'apprendre au nouveau, quoi. OK. Et donc, avec tous ces gens avec qui vous partagez vos vies, rapidement, c'est quoi la récurrence de vos réunions, le temps que ça vous prend dans la semaine, en deux mots, expliquez-moi.
Ah bah, vu qu'il y a des manifs tous les deux jours, autant dire qu'on se voit beaucoup.
Il n'y a pas besoin d'avoir des manifs pour se voir beaucoup, tu sais. Ouais. Nous, à droite, on se voit aussi beaucoup sans avoir pourtant besoin d'aller en manif.
Et donc, vous voyez combien de fois par semaine ? C'est quoi le temps que ça prend dans ta vie ?
Bah, franchement, ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire, les militants du 16e, je les vois tous les jours. Enfin, okay. On est toujours sur le terrain, parfois plusieurs fois par jour. Donc, il y a un groupe très proche que je vais voir tous les jours. Lorsqu'on parle des militants de Paris, on va se voir plusieurs fois par semaine, généralement. D'accord. Avec les actions en commun, avec les Verts, l'équipe politique et autres. Et les jeunes de France, même, on se retrouve une, deux, trois fois par an en fonction des événements. Donc, en vrai, on se voit quand même beaucoup et c'est vrai que ça fait vraiment deuxième famille. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ai des contacts avec des gens chez les Républicains. Il y a des gens qui sont même vraiment comme des frères et des sœurs pour moi aujourd'hui dans ce parti.
Tu t'attendais à trouver tout ça ?
Absolument pas.
En te lançant là-dedans il y a quelques mois ?
Non, absolument pas. Surtout que quand on se lance là-dedans, il y a toujours l'image de la politique qui est très... c'est un milieu de requins, de vicieux dans lequel on cherche à bouffer l'autre. En réalité, oui, il y a des gens qui ont des ambitions personnelles et qui peuvent être relativement malveillants, mais 90, voire 95% des gens qu'on rencontre là-bas sont des gens parfaitement normaux, juste avec des volontés, des convictions, des idéaux, qui se battent pour et qui ont d'ailleurs les mêmes idéaux que nous. Donc ça qui est super bien, et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien aussi.
Maya, toi, tu t'attendais à ce que ça te prenne autant de temps ?
Ah, mais pas du tout. Moi, ouais. Je voulais juste faire une ou deux actions par semaine et puis faire ma vie à côté. Garder mes potes, etc. Puis au final, ça m'a bien plu.
Donc tu regrettes pas tout le temps que tu mets dedans.
Pas du tout.
Mais en fait, on tombe vite dedans.
Ouais, c'est ça.
Enfin, c'est qu'à partir du moment où on en fait un et que ça se passe bien, on en fait deux, on va boire un coup, on rencontre des gens, on te donne des responsabilités, en fait, t'as tout de suite envie de continuer. Et je pense que c'est le sens d'un mouvement de jeunesse, c'est d'essayer de donner des responsabilités à chacun et de valoriser toujours ceux qui souhaitent en faire plus, ou en tout cas ceux où on voit qu'ils donnent vraiment de leur temps pour des convictions, pour des valeurs. Et du coup, c'est aussi ça doit être un gainage vertueux, en tout cas.
Donc il y a un peu d'adrénaline et un truc un peu addictif comme le sport.
Oui,
quoi.
Totalement. Ouais. Exactement. C'est tout à fait ça.
Le péril jeune.
Le péril jeune.
Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre émission spéciale Place aux Jeunes, Élysée 2022, Place aux Jeunes. On est parti avec Christophe Beaugrand, bonsoir.
Bonsoir Ruth.
Ce chiffre à 59% des jeunes ont l'intention, ou n'ont pas l'intention d'aller voter. C'est un chiffre de décembre dernier de l'IFOP. C'est pour ça qu'on vous donne la parole ce soir et c'est pour ça qu'on a envie d'entendre les propositions de chaque candidat pour les jeunes, à travers les jeunes, par les jeunes.
C'est toujours le Péril Jeune, on est toujours avec Anna qui roule pour Yannick Jadot, Calix qui fait campagne pour Valérie Pécresse, Maya qui soutient Jean-Luc Mélenchon et Guilin qui milite pour Emmanuel Macron parce que c'est son projet. Vous l'aurez compris à l'écoute de ce bobino de transition, on va rentrer dans le cœur du réacteur des idées au sein de votre parti. Courant, chapelle, motion, stratégie. Là, on vient d'entendre le lancement de l'émission Élysée 2022, Place aux jeunes, qui était animée par Routel Krief et Christophe Beaugrand sur LCI. C'était fin janvier 2022. D'abord, vous en avez pensé quoi de ce débat ? Qui, on le rappelle, rassemblait les représentants jeunes pour chaque candidat en route pour la présidentielle. Donc peut-être d'autres militants que vous connaissez et que vous côtoyez. Est-ce que vous vous êtes vraiment senti représenté par ça ? Et est-ce que, en fait, c'était pas un peu le royaume des EDL, des éléments de langage ? Qui veut y aller en premier ?
Si, en vrai, je suis un peu d'accord. Quand on fait le constat global, je pense qu'on est tous assez déçus. Mais après, ça se comprend aussi dans le sens où il y a très peu de temps, énormément d'intervenants. Et en fait, je pense qu'en si peu de temps, on n'a juste pas le choix d'utiliser ce qu'on appelle les EDL. C'est parce qu'en fait, on ne peut pas développer une idée parce qu'en fait, on a un temps qui est restreint ou alors on se fait couper. Et en fait, ce qui était, je trouve, extrêmement dommage, c'est que justement, nous, la jeunesse, on est censé dire qu'on ne veut pas faire comme nos aînés, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir débattre, s'entendre et discuter d'idées diverses sans forcément être d'accord. Et là, en fait, tout le monde se criait dessus et en fait, ça devenait juste finalement la même chose que pour les plus vieux et c'est assez décevant, en vrai.
Tu l'as vu, toi, Anna ?
Mais je suis assez d'accord. Du coup, moi, je l'ai clairement pas regardé en entier. Je ne vais pas vous mentir.
C'était assez indigeste.
Je suis assez d'accord pour ce débat-là. Mais comme, j'imagine que vous avez aussi été. Il y a plein d'autres débats qui sont organisés en ce moment où justement l'idée c'est de demander à des représentants, représentantes, différents candidats, candidates, de venir débattre. Et en réalité, c'est toujours aussi à peu près la même chose. C'est jamais vraiment des lieux de débat. En fait, je pense que le format le permet pas et c'est dommage. Mais je vois pas non plus finalement comment est-ce qu'on pourrait faire autrement finalement. Donc voilà.
Maya, tu trouves que c'était à ça que, enfin, en tout cas, je prends l'exemple de ce débat sur LCI parce qu'on en parle. Mais tu trouves que c'était à ça en fait que doivent représenter des militants jeunes et est-ce que c'est l'image qu'on a envie de donner aux Français de la jeunesse militante quoi?
Bah écoute, moi j'ai trouvé ça un peu bordélique et, ouais. Je pense qu'on a tous été déçus du fait qu'on n'avait pas le temps et le format nécessaire pour pouvoir faire ça bien. Après, je sais pas s'il y avait beaucoup d'utilité à ce genre de débat, mais ça reste quand même cool de le faire. En revanche, il y avait des questions assez caricaturales. Je me souviens qu'il y avait un truc en mode, enfin, je sais pas. C'était vraiment censé être axé jeunesse et les journalistes. Il y a un moment, je crois qu'ils étaient en mode ouais, l'écriture inclusive ou des trucs comme ça, tu vois. Alors que c'est pas forcément les sujets qui nous préoccupent réellement. Donc, je pense que ça démontre un peu comment nous, les jeunes, on se fait traiter parfois dans la politique.
Ouais, parce que moi, plus que l'aspect bordélique, c'est vraiment le fait que ce soit ultra caricatural qui m'a surpris. J'avais l'impression de voir mini Zemmour, mini Macron, les mêmes manières de parler, les mêmes choses à défendre. Et que ça laissait pas du tout place à ce qu'est censé être la jeunesse et les thèmes qu'on est censé porter.
En vrai, c'est aussi ça qui est compliqué dans ce genre d'émission, c'est qu'on a... Enfin, je pense que tous les partis ici ont un peu le même fonctionnement quand même dans les mouvements de jeunesse, avec un président qui est censé incarner effectivement la jeunesse du parti, mais aussi le parti auprès des jeunes. C'est une nuance qui est quand même à faire. Et que dans cette émission-là, ils ont trop été pris dans leur rôle de représentant du parti auprès des jeunes que de président des jeunes de leur parti. Ils ont vraiment parlé comme juste des jeunes qui dirigent une idée politique. Je donne l'exemple de notre président à nous, chez les Jeunes Républicains, Guilhem Carayon. C'est un mec qui, de base, est extrêmement éloquent et qui fait partie des... Enfin, qui réussit à chaque fois qu'il parle devant nous à mobiliser réellement les jeunes. Lors de ce débat, il avait ni le temps d'exposer ses idées, ni le temps de réellement parler aux jeunes tel qu'il faudrait leur parler. Les questions des journalistes étaient très axées vers un public type LCI, hein, donc pas des gens de 18 à 25 ans, mais plus des gens de 40 à 70. Et le résultat, c'est que ça ne parlait effectivement pas du tout aux jeunes. Je pense que c'est au-delà de la performance individuelle de chacun des représentants des partis. C'était vraiment le format qui n'allait pas. Il faut faire des formats qui conviennent beaucoup plus aux jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des débats qui commencent à être mis en place en cette fin de campagne, en amphi notamment, ou en live, avec des représentants jeunes, des candidats, qui parlent des sujets qui touchent les jeunes.
Ouais, mais pour le coup, j'assiste à beaucoup de débats dans plein d'universités en France qui sont organisées avec finalement toujours les mêmes représentants un petit peu des partis de jeunesse, et c'est finalement toujours un casse-tête. Hein. J'étais la dernière, enfin il y a quelques jours, à un débat à Sciences Po Paris, c'était toujours pareil, c'est-à-dire qu'on laisse parler personne et on a un temps court avec beaucoup de sujets. Je pense que peut-être axé sur un sujet, peut-être je dis n'importe quoi, mais l'écologie ça parle à tout le monde et c'est un sujet qui touche les jeunes, il faudrait parler de ça peut-être pendant 2 heures, ce qui nous permettrait d'expliquer des idées et quitte à refaire des débats avec peut-être d'autres représentants. Mais il faudrait trouver, je suis d'accord, un autre format, parce qu'en tout cas c'est inaudible et on ressemble à nos aînés, et je pense que c'est une mauvaise image qu'on donne à la jeunesse, et en tout cas on leur donne pas envie de faire de la politique.
Bah là on est en radio, mais on vous oblige à mettre des costards tout le temps comme ça.
Pourquoi tu critiques le fait parce que
non,
je suis en chemise?
Mais c'est une vraie question, est-ce que on vous formate, on vous demande de porter certaines choses qui font bien en plateau ou pas du tout?
Non, j'ai pas l'impression. Enfin, après, c'est plus par rapport. Je sais que Ambroise ce soir-là devait être en col roulé, je crois. Ouais. On lui a dit, mais un col roulé, oui, ça fait. Je pense que ça fait plus chill que de se dire, je viens en petite chemise, etc. Ça fait vraiment le premier de la classe. On va encore se faire taper sur les doigts. Oui, bien sûr que des trucs un peu comme ça, on le dit. Mais enfin, personne sinon. Enfin, c'est plus des remarques qu'on se fait entre nous, mais personne d'en haut vient nous dire, il faut que vous soyez habillé de telle ou telle manière.
Mais en vrai, c'est un vrai sujet, que ce soit la tenue ou autre. Mais en réalité, c'est hyper compliqué, je trouve, de nous, jeunes, faire de la politique autrement dans un cadre qui est finalement pas forcément fait pour qu'on puisse faire autrement. Enfin, je veux dire, il y a tout un poids, tout le poids des codes qui pèse un peu sur nous. Même si personne te dit objectivement « mets un costard », bah, toi-même, tu vas te dire « peut-être qu'il faut que je le fasse, c'est ce que font les autres, etc. » Tu vas pas forcément sortir la liberté d'évoluer comme tu le souhaiterais. C'est vrai que c'est très difficile de se créer ses propres codes, quoi.
C'est aussi une question d'image du parti. Hein. Enfin, je vais dire un truc tout bête, mais lorsqu'on représente une instance jeune d'un parti, on représente aussi le parti, on représente des idées, on représente des élus. Et donc, il y a un moment...
Les idées de droite, elles mettent des costards.
Les idées de droite, elles ont la classe. Voilà, c'est une différence avec d'autres partis. Mais il faut avoir toujours ça en tête, c'est qu'on représente au final des gens, on présente une idée, et je trouve ça naturel qu'il faille bien présenter derrière aussi, parce que ça compte dans l'opinion des gens. Et c'est l'objectif de toucher un maximum, et c'est bête ce que je veux dire, mais de plaire aussi dans ce sens-là.
Je reviens vers toi, Anna, où toi, pour le coup, tu nous expliquais que tu as une modalité de militantisme qui est assez particulière, parce que tu n'es pas directement rattachée à Jadot. C'est quoi ton courant au sein de ton organisation? D'ailleurs, est-ce qu'il y a plusieurs courants au sein de ton organisation? Et c'est lequel que tu portes?
Ok, gros sujet. En fait, contrairement à Europe Écologie Les Verts, chez les jeunes écolos, on ne fonctionne pas par motion. On n'a pas de différents courants internes. Alors, de fait, il y a des personnes qui ont plus ou moins de sensibilité, qui se sont plus ou moins révélées d'ailleurs suite à la primaire. Mais il n'y a pas officiellement de groupes qui ont été créés avec des personnes qui soutiennent leurs différentes visions des choses. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à la question. Tout ce que je peux dire, c'est que si on devait vraiment un peu schématiser, c'est vrai que chez les jeunes écolos, il y a des personnes qui sont, on va dire, qui vont du centre-gauche à plutôt l'extrême-gauche, et que s'il fallait que je me place, bon, je serais plutôt dans la bonne gauche, quoi.
Et chez vous, Maya, c'est comment? Est-ce qu'il y a différents courants à l'AFI?
Non, on essaye de pas tomber dans ce truc-là, parce que okay. À gauche, c'est facile d'avoir des scissions, de se retrouver avec 10 000 mouvements dans le mouvement. Donc,
c'est ce qui est un peu le cas actuellement, quand même. Hein. Au sein de la gauche, de manière générale, hein, pas chez AFI.
Totalement.
Ouais, mais après, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a autant de mouvements de droite que de gauche.
Bien sûr.
Ça a été un sujet longtemps. Pour le coup, on s'écoute les uns les autres. On n'est pas tous d'accord sur tout. Parfois, on passe des soirées à débattre sur des trucs du programme. Je me souviens qu'on était partis en vacances avec genre 10 camarades à un moment.
Ah, donc vous allez carrément en vacances ensemble.
Ouais, c'était pour le nouvel an. On avait passé genre 8 heures, je crois, jusqu'à 6 heures du matin à faire un questionnaire de genre 150 questions politiques. Parce que juste chaque question prenait genre 15 minutes et on n'était pas d'accord. Mais au final, on se retrouve sur les choses fondamentales et donc ça se passe très bien.
Et la ligne directrice, du coup, est-ce que c'est votre programme ou Jean-Luc Mélenchon ?
C'est vraiment les grosses lignes du programme, donc lutter contre la précarité, faire la transition énergétique, écologique, le féminisme, etc. Voilà. C'est vraiment sur les détails où
en général, ça s'écharpe.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Calix, est-ce qu'il y a différentes chapelles ?
Il y a beaucoup de chapelles différentes et j'aime pas trop cette vision où il faut restreindre les opinions. Nous, justement, enfin, chez LR, on vient de l'UMP, qui est justement cette union des différentes sensibilités du centre droit à la droite. Et j'aime énormément, je suis très attaché à cette valeur de chacun peut avoir son opinion tant qu'il reste dans notre cadre de pensée. On a plein de courants qui divergent, qui vont de Juppé de Alain Juppé à Agnès Evren, à Rachida Dati, à Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Chacune de ces idées ont une valeur très importante dans notre mouvement qui permet de fédérer beaucoup d'idées différentes. On se rejoint sur un problème commun, sur des idées communes, sur des valeurs communes, et que chacun ensuite ait des divergences personnelles. C'est pas grave, c'est très bien, ça alimente le débat et ça alimente justement les progrès qui sont à faire politiquement. Et on a aussi cette petite fierté quand même justement d'être un mouvement qui réunit beaucoup de sensibilités différentes. On peut passer outre et se réunir tous main dans la main finalement pour avancer vers un projet commun.
On ressent ça du coup à l'échelle jeune chez LR, donc cette idée d'avoir différentes sensibilités mais que le mot d'ordre c'est l'union.
On ressent totalement ça, je vais dire un truc qui est tout bête mais... faut surtout pas poser la question du second tour dans l'idée où on n'y serait pas à un militant jeune républicain, enfin un groupe de militants jeunes républicains, parce que chacun va avoir son opinion très personnelle et va être en désaccord avec les autres. Parce qu'on a justement cette chance-là qui est que si aucun d'entre nous n'est d'accord à 100% sur les idées, on est tous d'accord sur un projet à avoir. Mais en revanche, personnellement, au sein des jeunes, il y a... les courants de, bah justement, il y a À droite de Ciotti, il y a Oser la France de Julien Aubert, il me semble, il y a La Manufacture Xavier Bertrand, Libre de Valérie Pécresse, on a plein de mouvements indépendants, on a l'UDI qui est rattaché à nous, on a le Nouveau Centre, les centristes qui sont rattachés à nous, ça fait plein de mouvements différents.
Et c'est dans lequel que toi tu te reconnais divers. Le plus ?
Moi, je me considère comme d'une droite républicaine, laïcarde, qui reste une droite sociale ancrée dans les valeurs, justement. Proche de celle de Valérie Pécresse, pour qui je me suis engagé, moi, il y a un an et demi. J'ai une position aujourd'hui qui est celle, on va dire, majoritaire dans le parti, et grand bien m'en face.
Ok. Pour moi, chez Macron, ça m'a l'air un peu différent. Après, j'ai peut-être une vision qui est très caricaturale de...
Alors, je m'attends au pire.
Non. Mais pour moi, c'est un homme, un mouvement, et tout le monde suit derrière. Est-ce qu'il y a de la contradiction ? Et est-ce qu'il y a différentes chapelles qui ressortent
Alors, un homme, oui. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que si on s'engage, en tout cas chez les jeunes, pour Emmanuel Macron, c'est parce que c'est Emmanuel Macron. Et je pense que ça sera sujet à débat post-élection présidentielle, qu'il soit réélu ou pas réélu. Ce sera un vrai débat sur l'avenir, finalement, du mouvement. Parce qu'aujourd'hui, on est les jeunes avec Macron. Mais que seront les jeunes avec Macron après Macron ?
Ouais.
Mais en tout cas, on se réunit autour d'un homme, Emmanuel Macron, autour des valeurs qu'il a définies. Et il n'y a pas tellement de... Enfin, on ressent toujours un peu de part et d'autre. Il y en a forcément qui ont plus des sensibilités à gauche et d'autres qui ont plus de sensibilités à droite. Et ce qu'on arrive assez bien à faire dans ce mouvement, comparé à ce que... le parti a pu faire parfois et que j'ai déploré parfois un peu dans un avis très personnel, mais c'est qu'on ressentait parfois, et notamment au sein de l'Assemblée, pour le vote de certaines lois qui pouvaient faire un peu débat, finalement, les députés qui, que ce soit de droite ou de gauche, qui s'étaient dit « on va aller dans ce dépassement politique », en fait, retournaient dans leur « non, je suis un peu plus à droite, donc en fait, ça ne me va pas » ou « je suis un peu plus à gauche et en fait, ça ne me va pas non plus ». Ouais, mais En fait, on s'est engagé parce qu'on pensait que c'était pour le bien de la société. Et du coup, pour moi, qu'on soit un peu plus de droite ou un peu plus de gauche, l'idée, au final, c'est de se dire dans ma tête, moi, je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec tout, mais je me dis que si c'est pour le bien de la société, bah, je suis capable de mettre ce dont quoi je ne suis pas forcément d'accord, si ça fait avancer tout le monde. C'est un peu comme ça que je le vois. Et en tout cas, je pense qu'on marche assez bien comme ça chez les JAM. Et il n'y a pas, non, il n'y a pas de courant. Enfin, il n'y a pas plein de courants. C'est derrière Emmanuel Macron et c'est tout.
OK. Très rapidement, j'ai une question. Je vais commencer par toi, Maya, parce que c'est toi qui m'y a fait penser. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'une fois qu'on a intégré une grosse structure, les débats d'idées, ils passent au second plan, et ce qui devient le plus important, c'est le rite, un peu, les débats de stratégie politique, de comment on va faire pour gagner tel siège, telle élection. Donc, est-ce que c'est ça qui a pris le premier plan dans vos discussions avec les autres militants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ou est-ce qu'au contraire, on parle toujours d'idées, on parle toujours de comment on veut changer les choses, d'idéologie dans le fond, ou au contraire, maintenant, c'est comment on fait pour gagner ?
Je pense que ça dépend vraiment de la période dans laquelle on se situe temporellement.
Okay.
Donc moi, j'ai rejoint l'AFI en octobre 2020, c'était une période un peu creuse, donc c'était un peu avant les régionales. Et c'était vraiment le moment où on écrivait le programme, où on réactualisait le programme. Et du coup, ce qui se passait, c'est que dans chaque groupe d'action, on avait une réunion, soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, pour lire le programme tous ensemble et proposer des amendements qu'on faisait remonter par la suite. Et du coup, c'était vraiment débat d'idées continuel et c'était la première chose qu'on faisait. Et effectivement, après, quand on est dans des périodes électorales, ça, c'est plus sur la stratégie de mobilisation, etc.
Rapidement, Anna, chez vous, c'est débat d'idées ou stratégie de victoire ?
Sans vouloir copier Maya, c'est vrai que c'est à peu près la même chose. C'est vrai que là, c'est plus difficile, d'avoir des débats d'idées en plein milieu des élections, parce que on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément d'énergie à mettre là-dedans. Dernièrement, c'était hier, on a eu une réunion qui a duré 3 heures. On s'est écharpé sur quel mot, est-ce qu'on met ça, est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on met une virgule, enfin bref. Enfin, on peut clairement pas faire ça toutes les semaines, quoi. Donc ça se fait plus rare, mais c'est important d'en avoir et on a aussi hâte, je pense, de sortir de cette période pour pouvoir justement retrouver un rythme un peu plus normal.
Et Guilin, je vais te demander de la synthèse pour une question très rapide.
Je suis trop long depuis tout à l'heure, c'est ça ?
Non, t'es parfait. Une qualité ou un trait de personnalité que ta vie militante a exacerbé ou annihilé ?
Être capable d'écouter des idées qui ne sont pas forcément les miennes.
Okay.
Avant, j'étais très... Enfin, à partir du moment où on n'était pas d'accord avec moi, j'étais pas ouvert. Maintenant, je suis beaucoup plus ouvert et ça m'a fait beaucoup évoluer.
La même question, très rapidement, Calixte.
Je pense que c'est la détermination, vraiment, parce qu'il faut beaucoup d'abnégation et beaucoup de détermination pour réussir à se lever tous les matins sans jour off pendant 3 mois et aller se battre sur le terrain du mieux qu'on peut et ne pas compter les heures pour un parti, un candidat ou une idée. Et vraiment, ça inculque une certaine forme de rigueur dans sa propre personne et dans ses valeurs.
Anna, un trait de personnalité qui a changé ?
Ouais, je suis assez d'accord sur le fait d'être plus ouverte aux différentes idées. C'est vrai que c'est pas forcément inné et que c'est justement ça permet de se confronter à d'autres personnes, à d'autres discours et ouais, c'est assez précieux.
Maya, pour finir ?
Écoute, moi je trouve que ça fait vachement travailler le fait d'encaisser ce que les gens te disent. Tu travailles sur ta timidité et puis t'apprends à prendre de la distance. C'est plutôt cool.
Le péril jeune.
Le péril jeune.
Franchement, c'est pas le genre de jeune, c'est
toi. Mais pas du tout, regarde, tu vas voir.
Troisième et dernière partie de cet épisode 2 du Péril Jeune, nous allons ensemble nous intéresser au rapport que les jeunes entretiennent avec les moins jeunes au sein du parti. Ce qu'on vient d'entendre et qui, malheureusement, je m'en excuse, va vous rester longtemps dans la tête, c'était l'horrible lip-dub créé par les jeunes UMP.
Je suis pas d'accord du tout.
En 2010. Featuring Ramaya, de Patrick Devedjian, Christine Lagarde, Xavier Darcos, Xavier Bertrand,
les
Valérie
meilleurs.
Pécresse, les meilleurs, et
Rachida Dati.
Tous ceux qui veulent changer le monde, et Rachida Dati. Une réaction peut-être, Calixte?
Alors, je tiens à dire que vous avez beau rire, et moi aussi, c'est malgré tout, malgré la gêne aujourd'hui qu'on a en regardant cette vidéo, une idée qui est... Ouais, un peu. Une idée qui est toute manière... Enfin, tout de même, je trouve belle et importante, c'est-à-dire que dans cette vidéo-là, on voit autant les jeunes pop de l'époque, on en voit plein qui ont été à des fonctions plus ou moins dans le parti, des militants, on voit Gilbert Montagnier, faut le dire quand même, qui passe en voiture.
C'est pas rien,
on a réussi à voir Gilbert Montagnier. Et on voit aussi justement que les élus s'engagent avec les jeunes militants dans cette vidéo-là, malgré l'idée qui est, on va dire, discutable. Mais ça reste un même une blague au sein de chez nous, c'est-à-dire que nos élus sont même capables de venir s'amuser à chanter tous ceux qui veulent chanter le monde dans un train avec les militants, si ça peut nous aider à paraître un peu plus dynamique.
T'es d'accord, Guylain? Je sens que tu veux vanner.
Non, je veux pas vanner. En vrai, ça me fait beaucoup rire, mais malheureusement pour eux, c'est peut-être la seule chose qu'on retiendra des jeunes républicains ou des jeunes UMP.
C'était les jeunes pop à l'époque.
Les jeunes pop, voilà. C'est la seule chose qu'on retiendra d'eux. Moi, on n'a peut-être pas fait de chanson, mais en tout cas, on a réussi.
Marlène Schiappa au Parc Floral,
c'est
vrai. Ça, vous vous adresserez à la ministre en tant que telle.
Je me désolidarise.
Mais en tout cas, non, mais malgré tout, on est un mouvement de jeunesse. On doit aussi faire des propositions et nous on a réussi à en faire et c'est ça qui est plutôt bien chez les JAM. Pour le coup, que ce soit les repas crous à 1 € ou même sur la loi climat ou la loi concernant la justice pour l'amélioration des prisons, on a réussi à faire porter des amendements qui ont été repris par le ministre et qui ont du coup permis de changer un petit peu les choses, et nous du coup c'est une fierté pour un mouvement de jeunesse de dire qu'on a réussi quand même à être écouté et à pouvoir changer les choses. Donc,
C'est très bien, tu me fais la transition sur c'est quoi un mouvement de jeunesse et c'est quoi le rôle de section jeune au sein d'un parti. On a parlé tractage, on a parlé apéro. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça occupe toute votre vie, mais j'ai encore du mal à cerner. C'est quoi votre quotidien de militant? Est-ce que c'est passer des coups de fil? Est-ce que c'est tractage, collage? Est-ce que c'est serrer les mains sur les marchés? Faire des lip-dub? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Anna?
Alors, on fait plein de choses. Est-ce que la question c'est en période électorale ou hors période électorale?
Bah là, tu peux commencer par la période électorale, puisque j'imagine que c'est frais et ton quotidien.
Ouais, mais du coup, là-dessus, en effet, c'est plus tout ce qui va être tractage, aller coller, c'est plus aussi organiser quelques cafés débats. Quand on met ça de côté, chez les jeunes écoliers de France, on fait aussi beaucoup d'événements. On va faire un événement bientôt sur l'empowerment LGBT avec Mélanie Vogel et David Belliard. Donc, on essaie vraiment de faire des choses pour parler au plus de monde possible. Je sais qu'il y a aussi des jeunes écolos un peu partout en France qui font genre des vide dressing, des ateliers do it yourself et tout. Enfin, il y a vraiment de tout pour vraiment avoir des actions qui touchent vraiment le plus de monde possible. Enfin, pour pas qu'on reste dans notre entre-soi, etc.
Toi, Maya, c'est quoi ton quotidien de militante, concrètement ?
Pareil qu'Anna, et puis j'aimerais juste souligner que, globalement, le rôle du mouvement jeune, je pense que c'est surtout de toucher les jeunes, spécifiquement, c'est vraiment cet outil-là. Et puis, pour compléter Anna, du coup, on joue beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait des actions réseaux sociaux coordonnées. Sur les manifs, pareil, on essaye d'organiser des cortèges un peu sympas destinés aux jeunes, sur les meetings également.
Calixte ?
Alors, pour le coup, chez les jeunes REP, nous, c'est vraiment énormément de terrain. On essaye de le faire un maximum parce que l'important, c'est vraiment d'aller parler à l'électeur directement. En tant que militant, le rôle, c'est évidemment aussi de convaincre les jeunes déjà d'aller voter, en général, et aussi de s'engager si possible. Il y a des coups de fil à passer. Forcément, il y a du phoning à faire pour essayer, pareil, de mobiliser.
Tu peux expliquer ce que c'est que le phoning ?
Le phoning, c'est on met des militants dans une pièce.
D'accord.
On leur donne une liste de noms, de numéros, et on appelle et on essaye de,
de soit te convaincre de venir à un événement, soit ça peut être mille trucs différents, de venir à un verre, savoir s'ils sont intéressés pour s'engager. Enfin, c'est du contact.
Okay.
Pour la faire simple. Et puis, il y a aussi une grande partie qui est essayer de trouver des actions, des moments pour réunir les gens derrière une idée. On fait beaucoup, nous, comme je disais, de café politique. Donc, c'est-à-dire qu'on fait venir un élu, deux élus, plusieurs élus pour parler de sujets qui touchent les gens. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est d'avoir des questions-réponses, un petit discours, essayer d'avoir une approche beaucoup plus directe de la démocratie et des élections.
Est-ce que c'est des missions que vous partagez avec ceux qui sont plus âgés au sein de vos structures? Est-ce qu'ils font la même chose que vous? Et du coup, en filigrane, quand est-ce que vous les croisez?
Oui, là, actuellement, vraiment, pour le coup, on mutualise les actions militantes entre les Jeunes avec Macron et La République en Marche. On essaye en tout cas de se coordonner et de faire un planning qui est commun et du coup de se retrouver sur les actions militantes. On fait énormément de réunions publiques en ce moment, donc du coup, forcément, c'est ensemble qu'on les fait. Après, dans le hors campagne, c'est vraiment, on a chacun notre quotidien, entre guillemets. On fait des actions militantes qui sont juste entre jeunes, parfois on fait avec eux, mais surtout ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye aussi de mettre en place des petites réunions pour réfléchir sur des idées et faire en sorte de remonter des propositions, parce que s'il y a un truc qui m'exaspère et s'il y a un truc qui nous tient particulièrement à cœur, c'est qu'en fait on n'est pas une machine à tract, on n'est pas une machine à coller, on est jeune, donc on a des jambes, donc certes on fait peut-être plaisir aux petites mamies quand ils voient un beau jeune homme ou une belle jeune femme souriante pour lui donner un tract, donc ça fait peut-être plaisir, mais n'empêche qu'on a aussi des choses à dire, on a des idées à faire porter, et ça c'est ultra important. Et il y a beaucoup encore, que ce soit je pense dans les différents mouvements et notamment aussi dans le mien, qui oublie qu'on a des choses à dire et qu'on veut aussi changer les choses.
Et c'est parfait, parce que moi c'est une question que je me pose, c'est peut-être un peu brut, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois d'être de la chair à canon en fait pour aller faire le tractage, bien présenté devant de potentiels électeurs? Est-ce que tu ne le vois pas un peu comme ça des fois, Maya? Et qui toi en plus travaille au parti, donc tu as une relation différente.
Oui, bah après je pense que c'est le cas de tous, mais comme on est porté par nos idées, c'est pas forcément un problème. Enfin, c'est pas les cadres du mouvement qui nous imposent ça, c'est vraiment le fait qu'on a nos idées, qu'on veut militer pour. Après, du coup, ce qui est important, c'est de se sentir écouté, je pense, pour pallier à ça.
C'est le cas aussi de ton côté, Anna, tu peux le ressentir comme ça des fois?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet. Maintenant, clairement, je ne suis pas la personne la plus assidue en tractage et en porte-à-porte. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Non, mais en vrai, je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que moi, au départ, j'avais plus... J'hésitais entre ELV et LFI.
Okay.
Et c'est vrai que ce qui m'a fait pencher plus du côté ELV, c'est que... justement, quand j'avais été du côté de la France Insoumise, j'avais justement l'impression de surtout être là pour distribuer des tracts, etc. Et ça m'a... Enfin, c'était sympa, mais j'avais envie de faire un peu plus, quoi.
De penser.
Et c'est vrai que j'ai plus eu cette opportunité du côté, des jeunes écolos, où on fait des événements, où on fait tout en plein de motions qu'on fait remonter au parti, où on fait... où on essaye aussi de changer le règlement du parti. Et là, par exemple, on a fait modifier le règlement pour qu'il y ait 15% de moins de 35 ans qui soient investis à toutes les élections. Enfin, okay. On essaye vraiment de faire bouger les choses, quoi. Donc voilà.
Calixte, toi, je pense que déjà, tu adores tout ce qui est tractage, les marchés, tout ça. Mais il y a aussi toute une partie idée, parce que vous êtes aussi là, j'imagine, pour penser, pour faire remonter ce que nous, on pense aux personnes potentiellement plus âgées de vos partis. Comment on les fait remonter, ces idées? Ça passe par quoi?
Alors, comme je le disais au tout début, on a la chance d'être un mouvement déjà qui est indépendant financièrement, ce qui fait qu'on a nos propres instances et qu'on peut faire remonter les idées comme ça, déjà, à travers le mouvement jeune.
C'est-à-dire à travers le mouvement jeune, à travers des discussions, des lieux d'échange qui sont faits pour ça. Est-ce que vous faites remonter des rapports? Comment ça fonctionne?
On peut tout simplement aller en parler avec nos supérieurs, avec les personnes qui sont engagées depuis longtemps, qui ont des postes, pour faire remonter les idées. Et puis, on a une chance, notamment à Paris, avec la Fédération des Républicains de Paris, qui organise quasiment à chaque élection ce qu'on appelle des commissions. Donc, c'est-à-dire qu'on dit à tous les militants qui ont envie de s'engager, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, venez, on va ouvrir des espaces de débat, de discussion, dont on va essayer de tirer des propositions qui rentreront de facto dans le programme. Donc on réunit, ça peut être 6 personnes comme 90 personnes, pour discuter, parler, échanger, soit direction d'un président de commission, qui va écrire un long rapport en disant telles idées ont été retenues, lesquelles sont les meilleures, lesquelles sont les plus approuvées, et on les intègre au programme après. Et c'est comme ça qu'on fait pour avoir malgré tout un échange idéologique qui va finir par impacter un minimum dans le parti. Et c'est vrai que pendant notamment les régionales, on avait une grosse partie du programme des régionales qui venait de ces instances-là.
Donc, tu as du contact avec les ténors du parti. Tu peux aller toquer à la porte de Pécresse.
Alors, en ce moment, ça va être compliqué, je vous le cache pas. Mais on peut totalement aller parler à n'importe quel élu qu'on croise. Si on milite en plus assez souvent, on les croise très régulièrement parce qu'on a la chance d'avoir des élus qui sont très investis dans les campagnes. Donc, on peut réellement aller parler, que ce soit au maire d'une ville, d'un arrondissement, au député d'un quartier, à un responsable, à un ancien ministre. On les croise très régulièrement, on peut aller leur parler, leur dire ce qu'on pense, faire remonter les idées comme ça. Et c'est une vraie chance, la proximité qu'il y a aujourd'hui entre élus et militants dans le parti.
Maya, toi aussi, tu peux aller parler à Jean-Luc Mélenchon ?
Ah oui, carrément. Aujourd'hui, ouais. Je me suis foutu de sa gueule, d'ailleurs.
Tu lui as dit quoi ?
Je sais pas si... Enfin, non, je pense pas. Mais en meeting, il a dit « Don't look at up » à un moment. Et aujourd'hui, il est venu dans le bureau pour nous saluer, etc. Et on parlait cinéma. Et il parle de Don't Look Up, et je lui ai dit « Ah, bah, on dirait plutôt Don't Look At Up », et voilà, et en fait, il s'en fout, et c'est très bien.
Très sympa. Et vous avez rien dit pour le lait fraise, parce qu'à un moment, faut lui dire, c'est pas possible.
C'est quoi le lait
fraise ? Ah, mais nous, on adore.
Oh non, non.
Si t'as pas envie de pente à la FI, et que tu sors, tu bois un lait fraise.
Ok, c'est la tradition, lait fraise.
Ouais, ouais.
Guilin, est-ce que vous avez une relation de mentorat au sein de votre parti ? Parce que moi, j'ai un peu l'image d'Épinal où la politique, que ce soit en tant que passion ou en tant que conscion, on l'hérite. Donc est-ce qu'une fois qu'on rentre dans le parti, en général, on s'entend très bien avec un ténor, un cadre qui commence un peu à nous mentorer ?
Bah, en fait, ça dépend. Parfois, ça arrive. Mais généralement, en fait, étant donné qu'on est assez indépendant sur la manière dont on accueille nos militants, en fait, c'est nous qui les formons. On s'est formé. Enfin, moi, je me suis formé parce qu'on m'a formé, mais parce que c'est un jeune aussi qui m'a formé. Mais je veux dire, on s'auto-forme entre nous, et puis après. Forcément, il y a forcément des relations qui se créent à un moment donné avec des élus qui seront plus fortes que d'autres. Il y a des affinités qui vont avoir lieu. Et du coup, forcément, il va lui donner des conseils et faire en sorte qu'il puisse progresser. Ça, malheureusement, je pense que ça arrive partout. Mais en tout cas,
pourquoi malheureusement ?
Bah, parce que parfois, ça peut avoir un sentiment d'injustice. Parce que il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être... qui est peut-être très bon, qui a peut-être très envie, beaucoup d'idées, mais qui malheureusement n'a pas forcément les réseaux et peut-être un peu timide pour aller voir les élus. C'est pas forcément facile d'aller voir un élu. Il faut avoir un peu de, enfin, être un peu spontané et puis être un peu brut en lui disant bon, bah, est-ce que ça vous dirait qu'on aille boire un café ou qu'on discute. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire, et donc du coup il y en a d'autres qui sont peut-être moins bons et qui sont peut-être un petit peu plus opportunistes et qui vont du coup choper l'occasion, et en fait ça peut créer un sentiment d'injustice, et ça malheureusement c'est la politique. Et j'espère en tout cas qu'un jour on pourra changer les choses, mais c'est quand même assez compliqué.
Calixte, Maya, Anna, est-ce que vous avez des mentors ? Est-ce que vous en voudriez un ? Ou est-ce qu'au contraire, non, on peut se soustraire du mentorat en politique ?
Je pense que c'est important d'avoir des copains qui sont chauds de papoter avec toi, parler de politique, etc., et qui sont bons, et que c'est amplement suffisant.
Ok, pas besoin de mentor. T'es d'accord, Anna ?
Ouais, je suis assez d'accord. Je mise plus sur l'auto-formation, les discussions de fond, le fait d'échanger des références de bouquins, de films, plutôt que d'essayer d'être le petit oisillon d'un ou une cadre. Je pense que c'est aussi ça, faire de la politique autrement, quoi.
Je suis totalement d'accord. Hein. Franchement, la majorité du parcours militant, c'est des rencontres avec d'autres jeunes et un échange avec d'autres jeunes. Après... les relations avec les élus sont très importantes pour aussi évoluer, en apprendre plus. Je donne mon exemple. Hein. Personnellement, je suis très proche de mon premier adjoint dans mon arrondissement, qui est aussi élu à la région. Je suis proche de mon maire. J'ai la chance d'être relativement proche de la présidente de la fédération, qui est eurodéputée. Enfin, c'est des échanges qui permettent aussi de construire un peu sa vision de la politique, sa compréhension de ce monde-là. Et tout militant qui s'investit réellement finit par avoir ces relations-là aussi.
Dernière question avant la conclusion, qui n'est pas vraiment une question, qui est une demande. Je vais vous donner à chacun un petit papier et un petit stylo pendant le micro de fin, et je vais vous demander d'inscrire vos pronostics sur les résultats du premier tour, qui seront les deux finalistes. Quel score minimum, selon vous, il faudra pour accéder au second tour? Et on se les ouvrira au prochain épisode.
Le Péril Jeune.
Le Péril Jeune, saison 1, épisode 2, on ferme les urnes. Premier pas, chapelle et rapport avec les cadors du parti. Je crois qu'on a pas mal poncé notre thème du soir. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur sogoodradio.fr, tout comme l'épisode 1. Les plateformes de stream audio sont également un bon point de chute pour nous réécouter. Merci à Lucas à la réalisation et surtout merci à vous quatre, Anna, Calix, Guilin et Maya. Je l'ai fait par ordre alphabétique, hein, pas de jaloux. Et on vous retrouve dans deux semaines. Le premier tour de la présidentielle aura tout juste livré son verdict et il y aura un ou deux heureux autour de la table. Ou peut-être aucun, mais alors là, ce serait vraiment une putain de catastrophe. Rassurez-vous quand même, le Péril Jeune tâchera de tous et toutes vous consoler. Rendez-vous donc pour l'épisode 3, les restes du premier tour, jeudi 14 avril à 19h sur Socoud Radio. Bye.
Le Péril Jeune.
Le Péril Jeune.
Le Péril Jeune.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
So Good Radio.
10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio.
Salut, je m'appelle Diane Poitot.
Et moi, c'est Romain Salas.
Accordez-nous 10 minutes et on vous donne de quoi sauver le monde.
La quotidienne info de So Good Radio qui vous veut du bien.
Un tour du monde de l'actualité.
De Kuala Lumpur à Saint-Étienne jusqu'à l'Antarctique.
Des tortues étoilées enfin protégées aux résidences d'artistes en hôpital psychiatrique.
En passant par la défense des personnes transgenres au Minnesota.
Bref, on parle de tout.
Des infos les plus positives du jour, de celles et ceux qui essaient de rendre notre monde un peu moins pire.
Ça s'appelle 10 minutes pour sauver le monde.
Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.
Vous allez voir, ça met la pêche.
La super pêche.
10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde.
So Good Radio.
So Good.